Je vais voir avec vous un chapitre d'Apocalypse qui est toujours, qui me parle beaucoup et qui m'encourage. Je pense que vous aussi, parce qu'on parle souvent des héros de la foi, mais il y a des gens tout simples, peut-être qui peuvent être des héros, peut-être sans le savoir. C'est Apocalypse 3, la lettre à l'église de Philadelphie. Versets 7 à 12. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est un passage qui est encourageant pour nous. Vous savez, on parle souvent des héros de la foi. Les héros de la foi, on les connaît. Hein, c'est Abraham, Moïse, Joseph. Et quand on voit ce passage de Philadelphie, c'est peut-être plus pour nous. On n'est pas des héros de la foi, peut-être on va l'être, on l'est déjà sans le savoir. Mais ça s'adresse à quelqu'un qui a peu de ressources. Il y a un verset qui n'est peut-être pas tout à fait bien traduit. Voici parce que tu as peu de puissance. Que tu as gardé ma parole, parce que tu as peu de puissance, ce n'est pas la pensée initiale de Dieu. La traduction d'Arabie est meilleure, elle dit, parce que je sais que tu as peu de force. Parce que ça ne veut pas dire que tu as peu de puissance, donc tu seras plus récompensé. Non, tu as peu de force. Mais tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La parole de la persévérance en moi. Persévérer en lui. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, persévérer dans le Seigneur Jésus? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on marche avec lui. On sait ce que c'est que persévérer en nous, non? On va tous expérimenter. C'est pas le bon fruit, hein. C'est peut-être pour ça qu'on est ici d'ailleurs, parce qu'on a choisi de persévérer avec quelqu'un d'autre qu'avec nous. On peut recommencer à persévérer avec nous, hein. Nos familles, nos conjoints le voient tout de suite, non? Ou bien inversement, quand on voit un ami, un enfant, une épouse, quelqu'un qui persévère en lui, on le voit aussi. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a réunis pour marcher avec lui. Si on persévère avec lui, c'est qu'on marche avec lui. Est-ce que vous connaissez les signes de la marche avec Dieu? Quels sont les signes que vous marchez avec Dieu? Les conditions, mais quels sont les signes que vous marchez avec Dieu? Il y en a plusieurs, hein. Mais des signes qui montrent qu'on marche avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a quand même, hein? Non? Quels sont les signes qu'on marche avec Dieu? Ah. Qu'est-ce qui va se lancer? Personne ne marche avec Dieu? Si. Non, quand même, non. C'est pas du tout un titre, un standard de gloire, hein, non, c'est pas du tout ça, non.
Les fruits de l'esprit.
Comment?
Les fruits de l'esprit.
Oui, c'est vrai. Qui nous montre qu'on marche avec Dieu, ça c'est vrai. Mais quels sont de l'autre part les choix qu'on fait qui montrent qu'on marche avec Dieu? C'est des choix qu'on fait. Il y en a un qui est marqué dans, si vous le lisez, dans Proverbe 3. Vous savez qu'il existe des proverbes? Il y a combien de proverbes?
Combien il y en a? 31,
oui. Pourquoi il y en a 31 à votre avis?
Un par jour.
Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a 31 jours au maximum. Il y a des jours, il y a des mois où il y a moins de jours. Mais il y a 31 jours maximum. Moi, ça fait 40 ans que je lis le proverbe du jour tout, chaque jour. Je pense que c'est le problème que...
Et on finit par les savoir par cœur.
Voilà, puis aussi à choisir un petit peu ce qui nous convient mieux. On retient bien sûr mieux ce qui nous concerne ou ce qui nous convient. Mais s'il y a 31 proverbes, c'est pour qu'il y en ait un pour chaque jour. Je l'ai lu tous les jours.
Comme tu fais en février.
Comment? En février. On les saute, mais on les retrouve le mois suivant. Donc on n'a aucune excuse pour les avoir oubliés non plus. Alors dans le Proverbe 3, il est marqué un signe qui est typique de la marche avec Dieu. Dans le Proverbe 3. Là, ça va peine de regarder, ils ont été avant. Les voix d'un. Eh bien, c'est le signe qu'on le reconnaît dans toutes nos voies. Ça, c'est le signe de la marche avec Dieu. Le reconnaître dans toutes nos voies. Donc, s'il va bien, vous écoutez tout à l'heure, c'est pas très difficile. Hein. Mais dans toutes nos voies, quelles qu'elles soient, prenez la décision chaque matin de le voir dans tout ce qui va vous arriver. Vous allez voir qu'il y aura une multitude de faits, ou tout petits, ou plus importants, qui vont vous confirmer. Vous allez voir d'une manière extraordinaire. Une rencontre, un imprévu, quelque chose, vous allez voir se manifester. On le reconnaît dans toutes nos voies. Quel est le deuxième signe qui finalement peut en résoudre qu'on marche avec Dieu? Ah, ça, c'est un signe capital. Ça, c'est un signe. Et bien qu'on accepte de se remettre en cause.
Ah, ça, oui.
Vous savez qu'il y a des gens, peut-être des chrétiens, si tu me le dis un jour à moi, je crois que j'aurais sûrement raté ma vie. Si on dit d'un chrétien, vous savez, il est formidable, mais il est le même qu'il y a 30 ans. Ah, si on dit ça, ben, il est là vraiment. Non? C'est ça, c'est une transformation qui parle aux autres. Comme réciproquement, c'est celle du voisin qui nous parle aussi à nous. C'est des changements. Alors, est-ce qu'il y a d'autres signes aussi qui montrent qu'on marche avec Dieu? Ça, c'est une conséquence logique qui va venir. Si on marche avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait?
On a confiance.
Oui, mais pour avoir confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut lire sa parole. Si on la lit une fois par mois, on aura confiance une fois par mois. Et si on la lit tous les jours, tous les jours, à nous parler. Tout le monde, à moins qu'on ait décidé de faire un jeûne, mais tout le monde lit, tout le monde mange tous les jours. Mais le signe qu'on marche avec Dieu, c'est qu'on lit sa parole tous les jours. Tous les jours. C'est un choix, une décision. Si on le fait de manière occasionnelle, on aura un secours occasionnel. Mais si on choisit de le lire tous les jours, c'est un choix qu'il faut faire. Il y a des métiers, c'était le mien aussi, où on peut avoir des difficultés au point de vue planning. J'en ai eu jusqu'au jour où j'ai décidé, coûte que coûte, de choisir une heure pour. Depuis le jour où j'ai fait ce choix, tout s'est arrangé comme par enchantement. Comme par enchantement. Alors faites le choix, si vous voulez marcher avec Dieu, puis en donner l'épreuve, de lire tous les jours sa parole. Le moment peut être le matin, parce que c'est souvent le plus facile, mais ce n'est pas obligé, ça peut être d'autres moments dans la journée. D'autres moments dans la journée, mais toujours la même heure, choisissez-le. Vous allez voir que Dieu va vous accomplir. Vous allez consulter, vous lui parler, puis surtout, il va pouvoir vous parler. Vous avez souvent remarqué qu'on arrive devant lui souvent avec des fardeaux de prière, et quand on se met à prier, c'est des fardeaux tout différents qu'il y a. Il y en a certains qui tombent par terre, pourquoi? Parce qu'ils sont accessoires, et d'autres qui reviennent, qui sont les siens. Et à ce moment-là, on expérimente un autre signe de la marche avec Dieu, c'est qu'on apprend à écouter sa voix. Parce que pour écouter sa voix, il faut cheminer avec quelqu'un, sinon on ne le connaît pas. Donc si on ne lit pas sa parole, hein, si on lit le Figaro, on va connaître les pensées du Figaro. Mais si on connaît, si on lit la parole de Dieu, on va voir sa pensée à lui, qui va nous guider. Et ça, le signe qu'on marche avec Dieu. Et que ces promesses-là, elles vont être pour nous. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Et là, cette heure-là. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il s'adresse à un chrétien de base, tout simple, qui a peu de puissance. Il dit, je sais que tu as peu de force. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas renié mon nom. Et tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il y en a un qu'on va voir maintenant qui a fait ça. Il ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus le connaissait sûrement. Et qui a marché avec Dieu, puis qui a été un exemple, c'est Noé. On va le prendre dans Genèse 6. C'est un petit peu long, mais on va quand même le lire. Pour voir un petit peu quelle était la marche de Noé et ce que le Seigneur l'a conduit à faire. Genèse 6, à partir du verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec lui. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. C'est ainsi que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, sept couples aussi des animaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur toute la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair et en souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Prenez compte, voilà quelque chose qui paraît... Il y a beaucoup de gens qui pensent que cette vision de Noé est un symbole. C'est pas du tout ce que vous lisez là. Vous lisez le moment précis, le jour précis dans l'année où l'arche a été terminée, le jour précis où Noé est monté dedans. Et on sait que, quand on lit la suite des chapitres, que cette croisière sur son arche a duré quasiment un an. Quasiment un an. Parce qu'il fallait, il y a eu ce déluge pendant 40 jours, il fallait ensuite qu'après que la terre s'assèche. Et même dans les religions qui ne sont pas la nôtre, qui sont des fausses religions, eh bien on reconnaît le déluge. Le déluge a existé. Il y en a toutes les traces. Hein. Les fossiles, il y a toutes les traces du déluge. Et toutes les mythologies parlent du déluge. Nous, il nous faut les yeux de la foi, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des preuves. Hein, puisqu'on marche avec les yeux de la foi. Mais ce déluge a eu lieu. Et qu'est-ce qui a permis à Noé d'être choisi? Une seule chose. Noé, marcher avec Dieu. On sait rien d'autre de lui, hein. On ne sait pas s'il avait fait des études, s'il était à l'université, ou s'il avait fait un diplôme, on ne sait pas. Il marchait avec Dieu, mais pour Dieu, ça suffisait. Ça montre qu'il y avait très peu qui marchaient avec Dieu, hein, puisque la terre a été condamnée avec tout ce qu'il y avait. L'homme a été détruit, sauf une famille, une génération. Après, le Seigneur a dit que maintenant, ce sera terminé, il n'y aura pas d'autre début. Jusqu'au moment où il va revenir, il a promis. Mais ça n'a pas eu lieu. Il aurait marché avec Dieu. Imaginez-le au milieu de la génération où il vivait, qui était probablement paisible, fabriquer son arche dans son jardin. L'arche, elle faisait 150 mètres de long, 300 coudées. La coudée, c'est environ 55 cm. Imaginez une arche de 150 mètres de long, de 50 mètres de large et 30 mètres de hauteur dans un jardin. Imaginez les gens qui passaient devant. Il se moquait de lui, non? Hein, là. Ben, s'il n'y avait pas cette communion avec lui tous les jours, de marcher avec lui, il serait peut-être découragé. Non. Il continue à faire son arche. Il a dû passer vraiment pour quelqu'un qui avait perdu tout en sens. Hein. C'est la même chose pour nous aujourd'hui, vous savez. L'arche. On l'a tous les jours dans notre maison, dans nos jardins. C'est l'arche de la communion avec lui. La séparation d'avec ce monde, qui part à la dérive, à une dérive totale. Je pense que vous la voyez, tous les jours elle s'exagère. On arrive à des choses maintenant qui, il y a 10 ou 15 ans, auraient été impensables, même pour des gens de bon sens. Et imaginez, vous avez vu que dans l'arche, il est monté un couple de chaque espèce, un mâle et une femelle. Dieu aura du mélange. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait faire monter? Deux couples du même sexe? Est-ce que vous voyez que il ne retrouvait pas, hein? Voilà, pour se fermerait, c'est une porte automatique qui se fermerait tout de suite. Et on peut très bien avoir des petites compromissions, dire tiens, ils ont d'amour l'un pour l'autre, laissons-moi les faire, mais non. Ce que Dieu a fait est bien fait. Dieu a fait l'homme homme, il a fait la femme femme. Et la même chose pour chaque espèce d'animal. Alors que chaque espèce est venue, un mâle et une femelle. Ils sont montés chacun. Restons à ce que Dieu a fait. Quand on veut, comme on le fait maintenant, s'affranchir de son Créateur, on arrive à des choses qui sont absolument impensables. Il y a des choses qui maintenant sont dans le fil normal du temps, qui à 10 ou 15 ans auraient horrifié même le plus grand des païens. Maintenant, on se demande, quand il y a un couple de femmes qui va avoir droit à la PMA, la procréation médicalement assistée, il y a un gros problème qui se pose. C'est savoir s'il faut inséminer celle qui est la plus féminine des deux. Alors, il faut faire un concours. Non, vous rendez compte? Vous voyez ça? C'est pas possible. Hein, on se ridiculise. Récemment, il y a deux messieurs qui ont, dans la région de Strasbourg, qui ont adopté un petit enfant, qu'ils ont pu avoir, bien sûr, par la gestation pour autrui. Le petit enfant est arrivé chez eux, un petit garçon. Ils ont demandé à la CAF, ils ont demandé d'avoir une prime de naissance. Une prime de naissance. Alors la caisse de location a dit, écoutez, on peut vous la donner, mais il faut nous fournir un certificat de grossesse. C'est difficile pour eux. On peut faire des miracles, on n'en est peut-être pas encore là. Et ils ont porté plainte parce qu'il y avait contre eux une discrimination. On s'est injuriés. On les a injuriés en demandant un certificat de grossesse. Donc pour eux, c'était bien sûr, c'était pas très très glorieux, mais regardez, on arrive maintenant à des choses qui sont totalement loufoques quand on veut s'affranchir d'un Créateur et soi-même son propre Créateur, vous rendez compte? Et nous, nous sommes là, non pas pour se moquer, mais pour dire, regardez, allez. Dieu lui-même a fermé l'arche, on va la fermer bientôt. Soyons parmi ceux qui restent à part pour être pour les autres. Pour être pour les autres, il faut être à part. Choisir le bon choix, comme l'a fait Abraham, ou comme l'a fait Caleb, la montagne. L'autre a choisi quoi? Il a choisi la plaine. Il a choisi Las Vegas. Et même s'il est resté lui-même intègre dans ses comportements, il n'a pas été dans sa pensée, puisqu'il était totalement sauvé malgré lui, à cause de la prière d'Abraham. Et ensuite, sa postérité est devenue une postérité ennemie de Dieu. Choisissons la montagne de la marche avec lui, de cette dépendance de lui. Comme notre soeur l'a rappelé tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu nous demande ? C'est de croire au nom de son Fils Jésus et de nous aimer les uns pour les autres. Nous aimer les uns les autres. Deux choses qui sont impossibles sans Dieu. C'est ça ? Et que sans le simple serment, on ne peut rien faire. La parole est donnée ce matin. Je suis le simple, vous êtes les serments. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Qui est-ce qui fait le premier pas ? Non. C'est moi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il ne dit pas, je vais demeurer en vous, puis ensuite, si vous êtes d'accord, vous demeurez en moi. Mais non, parce qu'il nous laisse libre. Totalement libre. Pour ce cadeau. Notre Dieu est le seul Dieu qui laisse totalement libre l'homme de le choisir. Le seul. Les autres sont des dieux d'asservissement qui règnent sur les cœurs par la peur. Et lui veut régner par l'amour, par le choix personnel de sa créature de revenir à lui, de s'attacher à lui. Comme il l'a fait pour Noé. Et nous sommes des Noé, nous. Vous savez, ce retour est très proche. Très, très proche. Heureusement. Oui, heureusement. On peut dire heureusement. Vous savez que ça va être pour le chrétien le plus grand souhait de sa vie. C'est attendre ce retour. Et tout voir à travers ce retour. Non pas pour en faire une obsession, mais une délivrance. Ça va être l'allégresse de nos cœurs. Et nous sommes la seule génération, on peut dire maintenant, que le retour est programmé. Les chrétiens de la Réforme en 1500 et quelques vivaient dans l'imminence du retour du Seigneur Jésus. Ça fait 600 ans, ça s'est passé. L'imminence, parce qu'ils vivaient en communion permanente avec lui. Nous avons des signes, mais pas beaucoup. Il y a quelques signes qui montrent que le retour maintenant, que le compte à rebours a commencé, c'est le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Ça, c'est un signe indubitable. Les autres peuvent être des hypothèses. Bon, on ne sait rien. Mais ça, c'est un signe tangible. Le peuple d'Israël a été ramené sur sa terre et il ne la quittera plus. Donc, le compte à rebours a commencé. Le reste, laissons Dieu nous montrer, puisque vous savez qu'on ne sait pas le jour ni l'heure. Hein, on ne sait pas. Mais restons comme Noé. Faisons ce choix de marcher avec Dieu, avec l'itinéraire qu'il a pour nous. On va pour terminer voir quelqu'un qui est comme nous, qui n'avait pas un itinéraire très particulier, mais qui a été un instrument formidable pour quelqu'un qui a eu un destin hors norme. On va le voir, c'est dans Acte 9. C'est encourageant parce que c'est quelqu'un qui nous ressemble, qui n'a rien de plus que nous. Acte 9, c'est le moment de la conversion de Saul. Acte 9, je ne vais pas tout dire, à partir du verset 3 jusqu'au verset 25. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, c'est Saul, hein, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet or est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu pour sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, il fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Quelle histoire merveilleuse! Cette histoire, c'est le début du ministère d'un homme hors norme, Paul. Et peut-être la fin du ministère de quelqu'un qui est comme nous, Ananias. On ne sait pas, mais regardez. Est-ce que c'est quelqu'un? On ne sait rien de lui. Rien. Que cet épisode-là. Mais qui est déjà absolument extraordinaire. C'est un croyant, banal. Simple, pour lequel on n'a pas du tout d'informations précises, sauf qu'il connaît Dieu, et sauf qu'il marche avec Dieu. Parce qu'il y en a tous les signes. Imaginez ce croyant, le Seigneur lui parle. Déjà, pour lui parler, il faut aussi qu'il soit en communication avec lui, qu'il le connaisse. Puis il lui dit, va, impose les mains à cet homme. Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, mais j'ai appris, Seigneur, j'ai appris qu'il venait ici pour... amener prisonniers tous ceux qui te suivent. Et Seigneur lui répond, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Imaginez Ananias entendant ça. Il faut un contact au quotidien avec Dieu pour ça. Non? Il faut le connaître, bien sûr. Il marche. C'est quelque chose de tout simple. Ça veut dire que ce n'est pas réservé à une élite. Non. C'est réservé à un choix personnel. Et en arrivant, qu'est-ce que dit Ananias? C'est une chose absolument extraordinaire. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. » Saul, mon frère. Un homme qu'il n'a jamais vu, qui connaît de réputation, dont il sait qu'il venait pour amener prisonnier des croyants. Saul, mon frère. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire? Oui, mon frère. Ça montrait qu'il ne marchait pas. Il n'a pas persévéré en lui, cet homme. S'il avait persévéré en lui, on dit, écoute, Seigneur, mais il aurait eu un petit peu de réserve. Hein, bonjour, monsieur Saul, je vais vous faire vous reposer. Mais c'est pas moi qui viens, c'est un autre qui m'envoie. Hein. Alors, on dit, dépêchons-nous. Dépêchons-nous, ça sera fait. Mais, c'est fait, je vais déjà obéir. Maintenant, je peux rentrer chez moi. Non, Saul, mon frère, quelqu'un dont ici la réputation, il a envoyé des dizaines de personnes en prison. Vous savez, les réputations, hein, ça parle vite. Hein. On a vite des a priori après, hein. Tout à fait. Parce qu'on se trompe, on voit qu'on s'est totalement trompé. Saul, mon frère, est-ce qu'il ne faut pas avoir. Quel est celui des deux qui est le plus glorieux? Paul? Saul ou lui? Tous les deux. Tous les deux. Regardez, ils ont tous les deux. Il y en a un qui commence son ministère, l'autre qui l'a fait peut-être, parce qu'on sait rien d'autre. Il a peut-être fait autre chose qu'on saura un jour, parce qu'on fera sa connaissance, hein, quand il nous verra. On fera sa connaissance. Mais il a un sujet de gloire absolument que personne ne peut lui enlever. Pourquoi? Peut-être même qu'il ne savait même pas lire ni écrire. Il a un cœur qui savait lire, qui savait écouter ce que Dieu lui disait. Mais parce qu'il marchait avec Dieu. Notre soeur a rappelé tout à l'heure le chapitre 8 qui précède celui-ci. Dans le chapitre 8, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est Philippe qui est en Samarie en train de participer à un réveil extraordinaire. Les gens se convertissent vraiment comme des mouches. Et puis l'esprit dit à Philippe, va dans le souverain de Gaza, celui qui est désert. Si Philippe avait écouté sa voix de la part de son bon sens, ça c'est le diable. Ici il y a un réveil, donc le diable veut absolument... que le réveil cesse, c'est lui qui me parle pour m'envoyer, pour me mettre à l'écart. Ça, c'est la voix du diable. C'est pas ce qu'il a fait. Va sur le chemin de Gaza qui est désert. Il est écouté. Parce qu'il savait discerner la voix de Dieu, de celle de son ligne. Si nous marchons avec Dieu, on va apprendre à discerner celle qui est de Dieu. C'est pour la paix, elle est conforme à l'Écriture, à sa parole, et puis qu'elle produit un bon fruit. Celle du diable, elle peut être séductrice. pleine de désir, d'envie, de... elle attire, puisqu'elle se déguise en ange de lumière. Mais le cœur qui marche avec Dieu sait reconnaître. Parce que le diable ne procurera jamais la paix dans son cœur. Il va procurer la satisfaction, mais pas la paix. Et Philippe a obéi, il est parti, il était à l'origine d'arrivée, pas d'arrivée, d'une première église en Éthiopie qui existe encore aujourd'hui. J'ai vu. C'est les Amaras en Éthiopie, encore une église chrétienne qui est là. Isolée totalement de l'Occident, et cette église, elle est là. Et c'est la première église qui a été formée par l'obéissance de Philippe, qui marchait avec Dieu. Comme Ananias, comme Noé. Voilà. Comme chacun de nous, comme ce désir de Philadelphie, tu n'as pas renié mon nom. Vous savez, il y a des vérités qui peuvent renier. Ils n'ont pas réellement attaché. Mais tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Vous savez, c'est ce jour-là. Qui est le seul jour doux. Parce que vous savez que l'indépendance n'existe pas. Ni dans le ciel ni sur la terre. On a la liberté de choisir notre indépendance. On peut dépendre de nos pensées, nos profils de carrière, ou dépendre de celui qui dit maintenant, mais laisse-moi construire ta vie, laisse-moi te conduire, tu verras, je ferai bien mieux que tout ce que tu pensais imaginer. Comme il a fait pour Paul, à Damas, totalement stupéfait. Comme il a fait aussi pour Ananias, pour en faire un héros de la foi, une simplicité. Mais on parle de lui maintenant, tous les jours, ceux qui lisent ce passage de Acte 9 lisent Ananias. Qui est comme nous, Paul a des stars de Rome. Et puis Dieu lui a donné des révélations aussi, qui étaient nécessaires pour sa trajectoire, qu'ils ont aussi hors d'ordre. Mais Ananias, on ne sait rien, simplement qu'il avait choisi. Le choix, c'est toujours nous. Le pouvoir, c'est Dieu. N'inversons pas. Choisissons, lui nous donnera la force. Il nous donne cet ordre, nous aimer les uns les autres, parce qu'il sait qu'il est impossible. Impossible. C'est pendant 10 minutes. Mais aimer vos ennemis, les aimer avec persévérance, c'est pas possible. Si c'était possible, Dieu ne vous le demanderait pas. Parce qu'on le ferait sans lui. Il demande des choses qui nous amènent à la fin de ce jour. C'est laisser lui régner sur nous, comme dans ce cantique, t'as indiqué. Règne sur nous. C'est un règne facultatif. Choisissons-le de laisser régner. Ou de revenir régner si on s'est un peu éloigné, il nous pardonne. Puis nous conduira. Il bénit la marche avec lui. Alors choisissons-la ensemble. On va prier. Seigneur, merci de nous avoir rappelé quand tu dis qu'une seule chose est nécessaire. C'est le choix de Marie. Une seule. De prendre ton nom et de laisser nous conduire, nous diriger. Être dans ce monde qui part à la dérive, qui se perd. D'être des témoins. De monter dans ton arche et d'être cette lumière, Seigneur, au-dessus de l'eau. Qui montre la bonne voie. Tu veux encore à travers nous, dans nos familles, nos vies, notre témoignage peut-être muet sans rien dire, être ces témoins qui parlent de cette vie, qui triomphent de tout, de nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à être comme Ananias, à accomplir ce que tu veux pour chacune de nos vies, ce trajectoire parfait que tu as déterminé pour chacun de nous, qui est le meilleur, qui te comblera, qui nous comblera et qui comblera les nôtres. Et nous te remercions encore en ton nom. En attendant ton retour qui est tout proche. Amen.